Je voudrais vous proposer trois qualités de Dieu, trois propriétés divines, pour entrer toujours plus avant dans ce mystère de la Sainte Trinité. Ces trois qualités sont la bonté, la justice et la vérité. Dieu est un Père plein de bonté. C'est bien plus que le bon Dieu. C'est un Père plein de bonté. La bonté, c'est ce premier mot que saint Paul utilise dans une prière de louange au début de la deuxième lettre aux Corinthiens. Il s'exclame « béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de bonté ». On pourrait aussi traduire par « plein de tendresse » ou « plein de miséricorde ». Le Dieu, dit-il, qui vient tout réconfort, dont la bonté n'est jamais aussi grande que lorsque nous en avons besoin, lorsque nous sommes dans la détresse. C'est ainsi qu'il s'est révélé à Moïse. Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce, plein d'amour et de fidélité. Et avant Moïse, aux grandes figures bibliques que nous connaissons sous le nom des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, qui lui ont donné ce nom puissant que Jésus reprend dans une discussion qui porte sur la résurrection. N'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu ? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Dans nombre de familles, encore aujourd'hui, même si le phénomène s'amenuise, il y a un patriarche. Et il n'y a pas plus grand dans ces familles que le patriarche. Qui n'a jamais vu cela, pas seulement une famille, qui n'a jamais vu une communauté gouvernée par une telle figure d'autorité, dans ce qu'elle a évidemment de meilleur, ne sait pas ce qu'est la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut entrer dans le mystère divin sans avoir fait l'expérience soi-même, ou du moins avoir une certaine connaissance de ce qu'est une paternité pleine de bonté? Une paternité pleine de bonté, une autorité généreuse et bienveillante. Nous ne le pensons pas qui avons appris de Jésus à prier d'abord notre Père. Alors, la place du patriarche, elle est très particulière. On ne peut pas dire que dans une famille, ce soit une place qui est enviable. Parfois, on se demande quelle est la place la meilleure, la plus enviable. Mais pour le patriarche, c'est même pas envisageable. Même pas en rêve. En revanche, là où l'Écriture, la Bible, l'Ancien Testament est catégorique, il n'y a pas pire, il n'y a pas plus abominable qu'un enfant ingrat. Un fils rebelle, dit-il, il doit être mis à mort. Parce que le patriarche, c'est le point d'origine, c'est celui dont on tient la vie, c'est celui qui garantit l'unité de la communauté, sa cohésion, sa richesse, sa prospérité. Il doit être mis à mort. Alors on frémit en entendant cela. Mais on sait qu'à l'époque, les parents avaient droit de vie et de mort sur leurs enfants. Comme d'ailleurs encore aujourd'hui, tant qu'ils sont dans le sein de leur mère. Mais c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes, et même des croyants, imaginent que Dieu a sacrifié son fils. Et on l'entend encore dire que Dieu l'a fait ou laissé mourir sur la croix. Alors j'essaie d'expliquer que manifestement, nous ne donnons pas le même sens au mot sacrifice. Et vous le savez très bien pour la plupart d'entre vous, la réalité, c'est que ce sont les parents qui se sacrifient pour leurs enfants. Voilà la réalité la plus courante, pas toujours malheureusement, mais la réalité la plus courante, c'est la mission, c'est le rôle des parents, d'accepter de se sacrifier pour leurs enfants. Et c'est la réalité de ce terme qu'utilise beaucoup saint Paul, qu'on a entendu dans la deuxième lecture, l'héritage. Héritier, puisque nous sommes enfants de Dieu, dit saint Paul, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers du Christ, à condition, ajoute-t-il, que nous acceptions de prendre part à ses souffrances pour entrer dans la gloire. Mais l'héritage, c'est le signe de l'amour des parents pour leurs enfants. Vous voyez, leur donner ce qu'ils peuvent, tout. Alors que socialement, l'héritage, c'est une injustice phénoménale. C'est ce qui perpétue le fossé entre riches et pauvres. Je suis toujours étonné qu'il n'y ait aucun responsable politique qui veuille quand même dire, au moins proposer de le plafonner, dans certains cas. Mais on continue à le considérer comme sacré, peut-être un des derniers lieux ou un des derniers domaines du sacré dans notre société. Le symbole d'une juste transmission. Mais la réalité de la justice, c'est ce qui nous est enseigné par le Christ. Et voilà pourquoi cette deuxième qualité de Dieu, cette qualité divine, est réellement proprement incarnée par Jésus-Christ, le juste, le seul juste. Celui qui est venu nous apprendre l'équilibre à trouver entre l'intérêt collectif, le bien commun, pas l'intérêt collectif auquel prétend le grand prêtre lorsqu'il dit « il vaut mieux qu'il y en ait un seul qui meure dans l'intérêt de tous ». Non, le bien commun, et puis la dignité transcendante de toute personne. « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, dit Dieu, le Seigneur Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il faut toujours garder en tête que les premiers mots de Jésus à Jean-Baptiste sont « Laisse faire pour le moment, c'est ainsi qu'il nous faut accomplir toute justice. » Accomplir la justice, accomplir ce qui a été annoncé et promis par tous les prophètes, en particulier ce qu'on appelle les petits prophètes, depuis Osée jusqu'à Malachie. Osée qui dit « Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. » Et Malachie à la fin qui dit « Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. » Voyez, quelle que soit la façon dont on le présente, une pluie de justice, le soleil de justice, c'était la promesse du Seigneur qui nous permet d'arriver à la troisième étape, pratiquement dans l'histoire du salut, la troisième condition pour entrer dans le mystère de la Trinité, c'est ce que nous venons de vivre à la Pentecôte. Le don de la loi divine, en réalité inscrite dans nos cœurs, le don de l'Esprit, que Jésus nomme paraclet ou bien avocat, traduisons par défenseur, c'est-à-dire le vis-à-vis du juge, mais son vrai nom, que Jésus emploie à trois reprises dans l'évangile de Saint Jean, c'est l'Esprit de vérité. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Le don de l'Esprit Saint marque le passage de la justice à la vérité. Notre espérance est toujours une espérance de justice. C'est la promesse de Dieu, justice sera créée. Mais notre foi, c'est une foi en la vérité, en Dieu qui ne ment pas, qui nous donne effectivement cette solidité, la certitude de notre foi, en un amour qui est véritable, authentique. Le Père, le Fils et l'Esprit. La bonté, la justice et la vérité. Ce que nous croyons de ton amour et de ta bonté, Dieu notre Père, parce que tu l'as révélé en nous créant, nous le croyons pareillement et de ta justice et de ta vérité, par la venue de ton Fils et le don de l'Esprit. Et quand nous proclamons notre foi en la Trinité Sainte, nous adorons en même temps chacune de ces trois qualités, leur nature divine, leur égale nécessité. Parfois, aux personnes qui cherchent à progresser dans la prière, je demande, quand vous priez, regardez, à qui est-ce que vous adressez surtout? Est-ce que c'est au Père? Est-ce que c'est au Fils? Est-ce que vous invoquez quand même assez souvent, régulièrement l'Esprit? Il faut savoir à qui on s'adresse. À laquelle des trois personnes divines dans cette unité de la Trinité? Eh bien, nous pourrions aussi de temps en temps nous demander ce qui est le plus important pour nous. La bonté, la justice ou la vérité ?